Radio Prague, les informations.
Selon le Premier ministre Mirek Topolánek, l'élection présidentielle a été manipulée. Une motion de censure est prévue pour le 24 mars. Ouverture ce jeudi du festival Bonjour Brno. Le Premier ministre Mirek Topolánek considère que l'élection présidentielle qui s'est déroulée en février dernier a été manipulée. Il prétend avoir des preuves pour son affirmation et se déclare prêt à les soumettre à une session à huis clos de la Chambre des députés. Le rapport sera discuté lundi prochain en réunion ministérielle. Le chef de file du Parti social-démocrate dans l'opposition, Jiří Paroubek, estime pour sa part qu'il serait bon d'enquêter sur les manipulations concernant l'élection présidentielle à l'issue de laquelle Václav Klaus a été réélu chef de l'État. 9 candidats entrent en lice pour acheter České aérolinie, compagnie des lignes aériennes tchèques. Le 23 mars sera la date limite d'inscription à cet appel d'offres. C'est le 24 mars, au cours d'une session extraordinaire de la Chambre des députés, que le Parti social-démocrate déposera une motion de censure contre le gouvernement Mirek Topolánek. Selon le chef de l'EF de la social-démocratie, Jiří Paroubek, c'est une réaction à l'affaire du député Petr Wolf, trempé dans une des activités financières suspectes. Tout en ayant été élu à la Chambre dans les rangs de la social-démocratie, celui-ci soutient maintenant la coalition gouvernementale. Le ministre de l'Environnement tchèque, Martin Bursík, se dit satisfait des délibérations qui se sont déroulées au Japon et aux États-Unis et concernant le projet de création d'un marché global des permis d'émission. En tant que président du Conseil des ministres de l'Union européenne, Martin Bursík dirigeait aux États-Unis la mission européenne. De retour à Prague, il a salué les nouvelles initiatives de l'administration américaine dans ce domaine. Ouverture ce jeudi 19 mars du festival Bonjour Brno, consacré à la promotion de la culture française et francophone. Cette année, c'est la région d'Alsace, avec sa nature, ses arts, sa cuisine et ses vins, qui sera mise à l'honneur. La messe qui sera célébrée ce vendredi à la basilique Saint-Pierre et Paul, dans l'enceinte de Vyšehrad à Prague, sera consacrée aux victimes du nazisme et du communisme parmi les prêtres, les religieux et les religieuses. Ce sera le jour anniversaire de la mort de Jean de Nepomucène, martyr de l'Église et un des patrons des pays tchèques. La canonisation de Jean de Nepomucène a eu lieu en 1729. Météo ce jeudi sera le jour de fête de Joseph. Le temps demeurera variable avec quelques pluies ou chutes de neige, en montagne notamment. Les températures diurnes se situeront entre 2 et 6 degrés. Il fera froid aussi à la fin de la semaine. C'était le journal présenté par Alena Gabertova.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à l'écoute de Radio Prague et de ce nouveau tour d'horizon de l'actualité tchèque. Au sommaire aujourd'hui de la politique tout d'abord, avec une nouvelle affaire qui menace la coalition gouvernementale, une affaire qui met en cause un député mais aussi le Premier ministre Mirek Topolánek. Puis nous entendrons également le rédacteur en chef du Charlie Hebdo s'exprimer sur le film qui a été diffusé dans le cadre du festival du film documentaire One World, un film relatif à la publication des caricatures de Mahomet dans le journal satirique. Enfin, nous terminerons sur une note musicale avec la fin à Prague du festival Opéra 2009. Nous en ferons le bilan. Mais en attendant de vous développer tous ces titres, l'ensemble de l'équipe vous souhaite, où que vous soyez dans le monde, la meilleure réception possible. Comme annoncé en titre, une nouvelle affaire menace donc la stabilité de la coalition gouvernementale. Une affaire qui met en cause un député, Petr Wolf, soupçonné par la police d'avoir abusé dans un passé récent de certaines subventions de l'État, mais aussi le Premier ministre Mirek Topolánek, qui s'est engagé pour empêcher la diffusion d'un reportage télévisé compromettant pour le député. Lundi soir, la télévision publique tchèque a diffusé un reportage d'investigation relatif aux activités douteuses du député Petr Wolf. Élu lors des dernières élections législatives sur la liste de la social-démocratie, devenu parti de l'opposition, Petra Wolf est depuis passé dans le camp de la coalition gouvernementale. Un personnage important donc, puisque la coalition tripartite ne dispose théoriquement que d'une très faible majorité d'une seule voix à la chambre basse du Parlement où siègent 200 députés. Les voix de chacun d'entre eux, leur présence ou leur absence, sont donc primordiales lors de certains votes. Actuellement, Petra Wolf, soupçonnée d'avoir abusé de subventions de l'État de plusieurs millions de couronnes, fait l'objet d'une enquête policière. Ses activités ont également éveillé la curiosité d'un journaliste de la télévision tchèque. Craignant de voir l'affaire éclater au grand jour, le Premier ministre a donc demandé à Marek Dalík, lobbyiste très influent, considéré comme l'homme de confiance le plus proche du chef du gouvernement, d'aider médiatiquement Petra Wolf. Marek Dalík a donc rencontré le journaliste pour lui demander d'arrêter le tournage de son reportage. Après les avoir niés dans un premier temps, Mirek Topolánek a finalement reconnu partiellement les faits. Un aveu suffisant pour que le leader de la social-démocratie, Jiří Paroubek, exige la tenue d'un nouveau vote de confiance, ou plus précisément vote de défiance, si l'on s'en tient à la terminologie tchèque. Le chef de la principale formation de l'opposition estime qu'il s'agit là d'un cas flagrant de manipulation et que Petra Wolf devrait en tirer lui-même les conséquences.
La social-démocratie appelle le député Wolf, qui a été élu sur la liste de la social-démocratie et dont le comportement depuis un certain temps est contraire au programme du parti pour lequel il a été élu, à renoncer à son mandat de député. Une personne avec le profil qui est le sien n'a pas sa place à la Chambre des députés.
Člověk s jeho morálním profilem nemá v poslanecké sněmovně místo.
De son côté, Petra Wolf a réagi à cet appel à démissionner et aux accusations dont il fait l'objet de la part de l'ancien parti dont il était membre, la social-démocratie, en affirmant qu'il n'était pas surpris, mais qu'il n'entendait nullement abandonner sa fonction de député.
Ce n'est pas agréable, mais cela ne m'empêche pas de vivre pour autant. Ils n'ont rien trouvé d'autre, alors ils ont inventé cette affaire. Je suis habitué. C'est un scénario très classique, à savoir que M. Paroubek cherche, par tous les moyens, à arriver au pouvoir.
Le vote de confiance devrait se tenir mardi prochain à la Chambre des députés, une échéance que ne redoute pas le chef du gouvernement, Mirek Topolánek, estimant qu'il ne s'agit là que d'une manœuvre des sociodémocrates.
Il s'agit de la cinquième motion de censure présentée depuis que je suis à la tête du gouvernement. Je dirais que cela commence donc à faire partie du paysage, que cela devient une habitude. Je considère qu'il s'agit là d'une tactique des sociodémocrates, mais ils n'ont apparemment pas encore compris qu'ils n'obtiendront rien de cette manière.
Reste que dans la situation actuelle, même avec le soutien de toutes les forces en présence à la Chambre des députés, le Premier ministre ne peut être sûr de rien, la coalition gouvernementale apparaissant de plus en plus fragile. On passe maintenant à un autre thème de société, la salle du Lucerna à Prague projetait lundi le film intitulé « C'est dur d'être aimé par des cons » du réalisateur français Daniel Lecomte. Présenté dans le cadre du festival One World, le film retrace le procès intenté en 2007 au journal satirique Charlie Hebdo qui avait publié les 12 caricatures de Mahomet parues dans un quotidien danois quelque temps auparavant. Un documentaire rondement mené et qui ne pâtit pas de sa longueur, 2 heures, qui pose la question de la liberté d'expression et du droit à critiquer les religions. Philippe Val, le directeur de Charlie Hebdo, était présent également. Anna Kubishta lui a demandé comment il avait ressenti les réactions du public.
Ce que j'ai trouvé agréable, c'est l'immédiate, une espèce de souplesse d'esprit du public qui a tout de suite compris que là-dedans, il y avait notamment dans le film de Daniel, mais même dans la préparation et le déroulement du procès, qui était quelque chose de très grave, de très, très important, on n'a pas cessé quand même de rire et on n'a pas cessé de plaisanter là-dessus. Quitte à essayer même d'être contagieux pour la partie adverse de ce point de vue-là. Et j'ai l'impression que le public, peut-être que c'est culturel, il y a une culture de l'humour ici, à Prague. Ça a été immédiat, ils ont tout de suite pigé qu'il y avait cette distance. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intelligent, quoi.
Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est Charlie Hebdo qui a été en particulier visé par ce procès, alors que d'autres magazines ont également publié?
Parce qu'on est symbolique de... c'est nous qui avons déclenché en quelque sorte le scandale. Et on n'est pas dans un grand groupe de presse. On n'est pas, on est symbolique d'une espèce de liberté de la presse. Donc c'est sur nous que c'est tombé. On est paratonnerre.
Il existe aussi le Canard Enchaîné, quand même, qui est assez provocateur.
Oui, oui, mais le Canard Enchaîné, qui est un journal que j'aime, hein, et que je respecte, mais le Canard Enchaîné s'intéresse plutôt aux affaires politiques, purement politiques. Il s'intéresse pas tellement il débat pas des grands principes, il débat pas de philosophie politique. C'est un journal politique. Enfin, c'est un journal satirique, et nous, finalement, au bout du compte, on est peut-être plus politique que le Canard. Voilà.
Ils se sont positionnés par rapport au procès ?
Oui, ils ont fait des très bons comptes rendus, oui, de très bonne qualité, vraiment. Et c'est un formidable journaliste au Canard Enchaîné qui a rendu compte de ce procès. C'est un grand journaliste de. Donc, ça a été très bien fait, oui, oui.
Là, on est en mars 2009, ça fait quasiment, en gros, 2 ans, jour pour jour, qu'il y a eu la relaxe. Au bout de ces 2 années, et après ce marathon qui a été quand même ce procès, comment est-ce que vous voyez ça avec le recul ?
On a établi une jurisprudence vachement importante, et pas simplement en France. Je pense que les juristes ailleurs, dans les démocraties, ont tous étudié ce procès. Les gens qui s'intéressent à la liberté d'expression dans les démocraties sont tous intéressés à cette affaire, aux États-Unis, au Japon, enfin bon... L'autre chose, ça a déclenché des choses positives et des choses négatives. Mais ça, c'est pas de notre faute, parce que c'est pas nous qui avons fait ce procès. On nous a fait ce procès. La partie de l'extrême gauche, qui se sent de façon plus ou moins avouée, proche des islamistes, etc., par haine de l'Amérique, par antisionisme, etc., a accumulé de la rancune. Ils ont rien dit pendant ce procès. Mais ils en ont... Ils en pensaient pas moins. Le peu qu'ils ont dit était très hostile. Et je pense que cette rancune accumulée aujourd'hui sur des tas d'autres sujets s'exprime très fort. Il y a une rage d'avoir perdu. À la fois, enfin, on pourrait appeler ça dans une mouvance islamo-gauchiste. Hein, il y a une haine qui a décidé de s'exprimer, qui n'est pas forcément une haine religieuse. Ça révélait que quelque chose était là en colère et que cette rancune coléreuse est beaucoup plus sensible qu'on ne pense.
Un récital de la soprano Simona Hauda Chaturova a mis fin mardi au festival Opéra 2009, qui présente à Prague tous les 2 ans les productions de théâtre lyrique de toute la République tchèque. Au cours de la soirée a eu lieu aussi la cérémonie de remise des prix aux ensembles ayant présenté les meilleures productions de ce festival. Václav Richter nous en dresse le bilan.
Une fois de plus, le Festival Opéra 2009 s'est imposé en tant qu'élément utile et précieux de la vie culturelle tchèque. C'est une rare possibilité pour le public pragois de voir des opéras qui souvent ne figurent pas dans le répertoire des théâtres de la capitale, et aussi un moyen d'émancipation pour les théâtres de province qui ont l'occasion de montrer à Prague les qualités de leur travail. La directrice du festival, Lenka Šaldová, est contente.
L'intérêt du public a été presque incroyable. Nous savions déjà, et les éditions précédentes nous l'ont démontré, que le festival avait déjà ses fans et ses spectateurs assidus, mais cette fois-ci, les salles étaient vraiment combles. 5 spectacles au Théâtre des États ont été donnés à guichets fermés et les spectateurs ne manquaient pas non plus pour les opéras de Jana Hacek, qui sont parfois un peu négligés par le public tchèque.
C'est l'opéra d'État de Prague, sa production de Mort à Venise, œuvre de Benjamin Britten, basée sur la célèbre nouvelle de Thomas Mann, qui a remporté le prix de la critique. Il s'agit d'une coproduction de l'opéra d'État avec les festivals d'Aldenburg et de Bregenz et de l'opéra de Lyon. Lenka Šaldová explique les raisons de ce choix.
Le prix a été décerné par un jury de 5 critiques connus. Le jury a été unanime à distinguer cette production exceptionnelle quant au choix de répertoire et au niveau de la mise en scène. À vrai dire, c'est une des rares coproductions avec des partenaires étrangers de meilleure qualité, un exploit artistique qui nous situe dans un important contexte européen.
Le prix des spectateurs a été remporté par le théâtre Vixchalda de Liberec en Bohême du Nord, ayant présenté à Prague le drame lyrique de Giuseppe Verdi, Simone Boccanegra. Le ténor britannique Geoffrey Hawk a été distingué par le jury des chanteurs du Théâtre National pour sa prestation dans Mort à Venise. Et finalement, le prix de la directrice du festival a été remporté par la soprano Gudbrit Barkmin, ayant incarné Emilia Marti, personnage principal de l'opéra L'Affaire Makropoulos, présenté par le Théâtre National de Prague. Parmi les 13 représentations figurant au programme du festival, n'est pas passé inaperçu non plus l'opéra Jour et Nuit de Vit Zohar, dans l'interprétation de l'ensemble d'Amiens de l'université d'Olomouc, qui a été chaleureusement accueilli par le public et la critique. Le récital de la soprano Simona Houda-Chatourova, qui a mis un point final à cette importante rencontre des troupes lyriques, a démontré que cette cantatrice slovaque devient, à l'instar de sa célèbre compatriote Edita Gruberova, une grande interprète du répertoire de bel canto.
Voilà, c'est donc sur cette note musicale et avec le bilan du festival Opéra 2009 que se referment ces faits événements. Merci de votre attention et de bien vouloir rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite historique de notre programme.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Dissoubelova.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute. Il y a 70 ans, le 15 mars 1939, les troupes hitlériennes entraient dans Prague. Retour aujourd'hui sur ces dates noires de l'histoire tchèque. La veille du 15 mars, le président Emil Hacha est reçu à Berlin par le chancelier du Troisième Reich, Adolf Hitler. Il y arrive avec la conviction que la situation en Slovaquie qui vient de proclamer son indépendance sera débattue. Or, ce 14 mars 1939, la Tchécoslovaquie n'existe plus en fait. La décision d'occuper la Bohême et la Moravie après la proclamation de l'État slovaque libre est prise et Hitler place Hacha devant deux options entre lesquelles il faut choisir le moindre mal, soit accepter l'occupation allemande, soit faire face à la liquidation totale de ce qui est resté de la Tchécoslovaquie. Hacha finit par signer le protocole de capitulation. Une expertise graphologique a confirmé qu'en signant le document, Emil Hacha était sous une pression psychique énorme, sous menace de bombardement de Prague et de mise à mort de milliers de Tchèques. Les archives sonores ont conservé la voix d'Emil Hacha de ce 14 mars il y a 70 ans.
Après un entretien avec le chancelier du Reich et après un constat de la situation, j'ai décidé de remettre en bonne foi le sort de la nation et de l'État tchèque entre les mains du leader du peuple allemand.
Le lendemain, le 15 mars, à 6h du matin, les troupes nazies entrent dans Prague. Au son du poème symphonique Vyšehrad de Petrich Smetana, la radio annonce que les unités militaires du Troisième Reich ont franchi la frontière pour assurer la protection de la Bohême et de la Moravie. La colère, l'amertume et le désespoir envahissent les gens rassemblés dans les rues de Prague.
ils ne peuvent qu'assister en spectateurs impuissants à l'entrée de troupes d'occupation dans leur pays. Sur des photos d'époque, on voit certains hommes menacés du poing. Un témoignage authentique sur l'un des événements les plus noirs de l'histoire tchèque est fourni par le reporter de la radio tchécoslovaque František Kocourek, décrivant d'une voix émue la situation sur la place Venceslas où les troupes nazies défilent.
Tout cela est comme si c'était un rêve épouvantable. Qui d'entre nous aurait cru il y a une semaine qu'un défilé pareil puisse être la réalité ici, à Prague, sur la place Venceslas? La roue de l'histoire tourne et personne ne peut l'arrêter. Après des soldats, on voit arriver des unités motorisées. Des véhicules militaires transportent des canons anti-aériens géants d'une construction tout à fait différente de la nôtre.
En propos ambigu, le reporter parle encore d'une grande corneille noire survolant la place Venceslas au-dessus des projecteurs de la défense aérienne de l'armée allemande. Quelques mois plus tard, František Kocourek est arrêté et meurt en 1942 au camp d'Auschwitz. Le sort de l'un des meilleurs reporters de sa génération symbolise l'échec de la politique de conciliation d'avant-guerre. L'occupation de la Tchécoslovaquie est en effet la conséquence directe des accords de Munich signés le 29 septembre 1938. D'un État prospère et industrialisé, il ne subsistera qu'un embryon. La Tchécoslovaquie est sacrifiée par les grandes puissances au nom de la sauvegarde de la paix en Europe. Le 16 mars 1939, le ministre des Affaires étrangères du Reich, Joachim von Ribbentrop, lit à la radio tchécoslovaque l'arrêté de Hitler sur la création du protectorat de Bohême-Moravie. Konstantin von Neurath en est désigné le chef. Karl Hermann Frank est nommé secrétaire d'État. Dès la première journée de l'occupation, Hitler entre au château de Prague. 6 longues années d'occupation commencent. Des milliers de personnes sont arrêtées, déportées dans des camps ou exécutées. Suite à Munich, la Tchécoslovaquie perd un tiers de son territoire, habité par 4 millions d'habitants. Elle cède à Hitler les plus importantes branches de son industrie. L'armée tchèque, démobilisée et démoralisée, quitte les casernes. Il y a pourtant des endroits où l'armée oppose une résistance. C'est le cas du 8e régiment de Silésie à Mistek, en Moravie du Nord, qui a ouvert le feu sur les unités allemandes venant occuper les usines industrielles stratégiques. L'historien Karel Straka de l'Institut d'histoire militaire rappelle que des conflits armés ont accompagné la période entre Munich et l'occupation. L'un des plus importants, sinon le plus grave, a éclaté dans la commune de Moravská Chrastová.
Le 31 octobre 1938, un violent accrochage s'est produit entre des Allemands des Sudètes fanatiques, d'une part, et le régiment d'infanterie numéro 13 de l'armée tchécoslovaque, de l'autre. Le conflit a commencé après que les troupes de Henlein avaient attaqué la commune, essayant de chasser les soldats et les organes tchèques. La partie tchèque y a réagi par une contre-attaque. Ce cas illustre que les soldats tchèques mouraient après Munich. D'ailleurs, le conflit de Moravská Chrastová a fait 4 morts.
Avant le soir du 15 mars 1939, l'occupation du territoire est achevée. Les armées allemandes sont suivies par la police secrète de l'État, la Gestapo. Celle-ci installe ses bureaux au palais Petschek, lieu des interrogatoires redoutés et des décisions ultimes. Prague remet au Reich les plus grandes usines d'armement, Škoda Plzeň, mais aussi l'ensemble de l'équipement de l'armée et des forces de l'air, dont 600 tanks et 1000 avions. Selon l'historien Dušan Uhlíř, Hitler se rendait compte qu'avec les armes tchécoslovaques, il pourrait armer 45 divisions. Pour cette raison, la Bohême et la Moravie ont été aussi rapidement occupées. Le protectorat est devenu l'une des premières usines d'armement du Troisième Reich allemand.
Voilà, c'est la fin de cette rubrique historique et avec elle du programme en langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention. Le prochain rendez-vous avec l'actualité tchèque, c'est dès demain près de vos postes, même heure, même fréquence, ou sur le site internet de Radio Prague au www.radio.cz. À bientôt donc. Ahoy!
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.